L'attitude actuelle commence à me polluer ferme. Ce qui n'était que provisoire s'est installé à long terme.
Radio provisoire.
Hello. Turn on the radio. I'm talking to you.
You're being grotesque.
It's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
Bonjour, bonjour à tous, PFMiens, PFMiennes, c'est la troisième partie, et oui, la troisième partie de Décibel pour vous parler du Haut Tempo Festival à près d'Orléans, précisément à Boigny-sur-Dionne. C'est quand même à une bonne dizaine de kilomètres du centre d'Orléans. Et là, on va vous partir à Brest, puisqu'on va vous parler de Matmata, principalement dans ce Décibel. Une longue interview, ils ont fait un double album, ils ont fait un gros retour. C'est une interview en plus que j'ai fait avec deux collègues de la région de là-bas, d'Orléans, de Web Radio. Il y avait Sullivan et puis Jonathan. Et donc, voilà, je vais vous passer un titre de leur double album, donc Miscellanée Bissextile. Et donc, je vous passe un titre assez court d'abord, parce qu'il y a des morceaux très longs qui sont intéressants aussi. Mais enfin, bon, pour le format radio, c'est un peu difficile. Je vous passe Populaire. Et après, on enchaîne directement sur l'interview qui fait une bonne vingtaine de minutes. Voilà, vous écoutez Radio PFM sur 99.9 et en DAB+ également.
Seront ce qu'elles seront, bien assez tôt elles arriveront. Il faut déjà que le sang coule, coûte que coûte, faire bander les foules. La rumeur suffit amplement, commençons par fermer les yeux sur tout ce qui n'est pas accablant. Incendions et fumée sans feu. Est-ce que tout le monde a bien glissé son papier dans la gueule du lion? Allons camarades justiciers, c'est l'heure de la diffamation. Jette en pâture, épargnez-nous les détails. On ne fera pas dans la dentelle de charogne, on fera ripaille en embuscade dans les ruelles. Est-ce que tout le monde a bien pensé à son permis de délation? Allons camarades justiciers, c'est l'heure de verser le poison.
Eh bien bonjour, bienvenue pour l'interview groupée. Donc en média, vous avez Sullivan de Radio Vague.
5K de JJC Radio.
Et Pierre-Charles de Radio PFM Arras.
Voilà, on va vous laisser vous présenter également.
Stan, guitare, chant de Matmata.
Eric, basse, chœur de Matmata.
Très bien, et au niveau de Matmata, donc c'est en 95 que Stan est Sunny rejoint par le bassiste Eric Diggen, si je prononce bien et le batteur Funch, que le groupe voit le jour. D'où vous vient ce pseudo Matmata?
Oh, c'est même plus qu'un pseudo, c'est le nom du groupe en fait. Hein.
En fait, le vrai nom du groupe,
c'est la grande Sophie.
c'était le dernier nom, c'était le seul qui restait en fait.
Non, on avait hésité avec Connemara, mais
c'était plus connoté, donc on l'a. Voilà. C'est le nom d'un village tunisien. J'y étais allé quand j'étais gamin, donc j'avais retenu ce nom-là. Puis ça n'évoquait rien. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait comme musique. On savait pas encore trop ce qu'on allait faire. Donc on va s'appeler Matmata et on avisera après de ce qu'on fera. Donc ça nous a laissé un petit peu de temps pour se trouver. On s'est toujours pas trouvé d'ailleurs. On se cherche encore, mais on a gardé le nom. Voilà.
Ok. Et alors du coup, parlez-nous de cette création du groupe justement. développer un peu plus en détail.
Alors, tu t'en souviens? nous
sommes en 1995.
Formation de groupe, comme n'importe quel groupe se forme, c'est-à-dire qu'on voilà, on fait de la musique depuis quelques années, on a envie d'avoir un groupe, on se rencontre. À l'époque, sur Brest, il y avait énormément d'endroits pour jouer, donc on avait énormément d'endroits pour faire des concerts en formule solo, duo, trio, et puis voilà, c'est une rencontre humaine, une rencontre artistique, on s'est dit qu'on allait essayer, et puis on a commencé très rapidement parce qu'il y avait déjà des compos, chacun composait, enfin, comme n'importe quel musicien qui commence à faire de la musique, tu commences à par jouer les chansons des autres pour apprendre quelques chemins, quelques couleurs, puis tu commences à faire tes titres, et puis voilà, après on a souvent dit qu'on a eu un parcours assez rapide, mais on n'a pas grillé d'étapes, on a fait énormément de concerts, ce qui nous a permis de jouer devant énormément de monde nos premières compos, qui nous a permis...
Énormément, ils n'étaient pas nombreux au début quand même.
Il y avait 30-40 personnes à chaque fois.
C'était en Bretagne déjà ?
Au début c'était que sur Brest parce qu'on n'avait pas de voiture, donc on poussait nos amplis dans les rues pour aller de bar en bar. Des fois on les oubliait dans les bars, on se demandait où on avait joué la veille pour aller les récupérer.
Quel quartier ?
Oh, on a fait partout. Franchement à Brest, on a même joué dans des boulangeries... Enfin voilà, dès qu'il y avait un endroit qui disait on veut bien faire des concerts, on disait ça tombe bien parce que nous on n'aime pas répéter dans une pièce, donc on préfère jouer devant les gens, donc on allait jouer devant les gens. Et donc on a sorti un premier 2 titres, on en a vendu 30 000, ce qui nous a permis d'aller enregistrer notre premier album. Et puis à l'époque, sans vouloir médire sur les radios, mais il y avait beaucoup de radios généralistes qui osaient passer des artistes émergents et qui ne faisaient pas tous faire que passer ce qui passe partout, quoi. Donc on a eu la chance de rentrer sur les décrochages de France Bleu dans le coin, puis après sur des radios nationales, et puis c'est parti. Donc c'est un cheminement rêvé pour tous les groupes, mais encore une fois, on n'a absolument pas grillé d'étape. On a commencé par du petit bar, du petit club, des petites salles, et puis voilà. Et donc ça a commencé le 27 septembre 1995, et nous sommes encore là.
Et justement, on pense par rapport à Brest, on pense forcément à Christophe Miossec avec son quartier de Recouvrance.
Je ne connais pas.
Vous voyez plus qui. Et donc en 95, je crois qu'il avait sorti 2 albums, il y a eu Boire et Baiser, je crois. Ouais. Peut-être le 3e, mais je sais pas trop.
Ouais, je sais même pas si le 2e était sorti déjà à l'époque.
Non, pas encore.
Mais nous, peut-être. Quand on est arrivé sur Brest, il y avait c'est une scène rock, Brest, même Alterno. Il y avait pas mal de groupes de reggae aussi, donc en fait il y avait une multitude de... Enfin moi c'est ce qui m'a surpris quand je suis arrivé sur Brest pour les études, parce que je suis originaire de Morlaix, donc qui est à 60 bornes de Brest, c'est qu'en fait il y avait rarement de la musique dans les bars. C'était des groupes qui jouaient, voilà. Donc en fait c'était comme ça. Et donc il y avait les locataires à l'époque, donc c'est une partie de l'équipe qui du coup a fait le premier album avec Miossec. Il y avait plein de groupes de beaux tatoués et de bien énervés, quoi, avec des... Et il y avait un foyer vraiment très très rock, donc effectivement on a eu l'occasion de croiser Miossec.
C'est avant qu'il parte à Bruxelles, je crois.
Il a un problème d'impôt à mon avis.
Les 2 premiers singles, donc Lambé and Drop et Les Moutons, qui sont des chansons liées à la Bretagne, sont des succès. Est-ce que c'était vraiment les influences que vous vouliez au départ, avoir les chansons bretonnes avec le rythme folklorique?
Pas forcément, parce que nous, on faisait pas mal de reprises de rock anglo-saxon, mais bon, il y avait cette référence-là qui était quand même présente. Et c'est vrai que ces 2 chansons-là, c'est le première qui était à peu près prête, mais nous on les incrustait dans nos sets. En fait, on faisait plein de reprises et puis on incrustait nos chansons en faisant croire que c'était des reprises, parce que si tu dis que c'est tes chansons, les gens ils vont boire un coup au bar, en fait ils s'en foutent. Donc nous on disait rien, donc ils écoutaient et puis ils pensaient que c'était des reprises, donc voilà, on a dit non, c'est nous, donc c'est vrai que il y avait un truc original dans ces chansons là voilà, qui mais c'est qu'une influence, quoi. C'est vrai que c'est les 2 premières qui ont été mises en avant, donc automatiquement
Vois, moi par exemple Lambé, parce que Lambé il avait déjà bossé Stan et Samy, donc avant que je les rencontre, enfin elle existait, le thème existait et la chanson, et moi j'ai pas entendu ça comme une chanson bretonne, quoi. Pour moi c'était un riff de... ça aurait pu être du Led Zepp ou du Gary Moore, quoi. Surtout que Samy, le premier guitariste, c'est un grand fan de lead guitar qui raconte un truc, et moi j'ai pas vu le truc, mais voilà, c'est comme ça aussi. Après, quand on a sorti Emma, nous, on était persuadés qu'on avait sorti, à l'époque, il y avait pas mal de groupes qui faisaient un peu des chansons, ce qu'on appelait le style un peu Britpop, avec des couplets un peu soft, et puis des refrains qui explosaient un peu. Donc nous, on avait l'impression d'avoir fait une chanson Britpop, quoi. Puis tout le monde nous disait « Non, c'est hyper celtique !» Ah, bon, d'accord, bon, ben, si vous voulez, quoi. Mais on a souvent dit, hein, on aurait été de Bordeaux, est-ce qu'on nous aurait dit qu'on faisait du rock girondin ? Je sais pas. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de nos influences, mais on a toujours dit qu'on en avait plein. Je pense que ceux qui ont écouté la totalité de nos disques ou la totalité des chansons comprennent bien que c'est un ingrédient, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si un cuisinier il fait une fois du curry et puis on lui dit bah, « ça va, t'es indien ». Non, j'utilise plein d'autres épices, plein d'autres aromates, plein d'autres choses. Bon, voilà.
Et ça fait combien d'albums studio au total ?
Là, c'est notre sixième album studio.
Six ? Ah ouais.
Six, ouais. Et on a fait plusieurs lives, et puis des EP, et puis plein de choses. Quoi. L'autre jour, on a compté le nombre de chansons qu'on a déjà sorties, mais ça commence à faire beaucoup.
Ah oui ?
Mais
pas, pas combien ?
Bon, mais il faut s'en souvenir. Quoi, c'est... Donc bientôt le prompteur.
Mais ça fait plus de 60,
ouais.
Donc,
ouais.
Bah oui, bon, largement. Oui,
beaucoup plus.
Bah oui, bah
avec
oui,
tous
oui.
Les à côté, je ne sais pas combien.
Bon,
pas tant que ça, finalement, parce que, bon, six albums, on a pris notre temps, en fait. Voilà, parce qu'aller faire un album tous les deux ans, donc voilà, non, on préfère se... Puis on n'a pas eu trop le choix la dernière fois, parce que, bon, il y a eu deux années supplémentaires qui n'étaient pas prévues. Bon, la fois d'avant, on a pris 9 ans, mais voilà, on est assez irrégulier, en fait. On sort des albums quand on a envie.
Calos. Je ne dis pas que j'ai froid, mais l'automne est précoce, je la reconnais bien là. La ville qui se mérite, qui se gagne à la sueur, la cité interdite aux misérables imposteurs. Mouillé jusqu'à l'os, du soir jusqu'au matin, le bitume brille comme du gloss sous ce putain de crachin. Mais à trop vouloir médire, celui qui ne l'aime pas finira par subir les noires colères du Norrois. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême du feu. On a beau raconter qu'on a bien roulé nos bosses, mieux vaut ne pas se la ramener. Si les bras sont fermés à tes charmantes effusions, c'est pour mieux t'enlacer à la prochaine saison. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même. Mouillé jusqu'à l'os, c'est pas non plus le déluge, on s'amuse comme les gosses dans quelques lieux hydrofuges. À refaire le monde avec d'imparfaits inconnus, ce soir on fait la bombe et on dansera dans les rues. Sans nuance de gris commence, c'est toujours égal à elle-même, comme une vieille amie d'enfance, mais de là à dire qu'on s'aime. Rien n'est jamais écrit, c'est chaque fois le même baptême du feu et de la pluie, avant que reste même.
On vient d'entendre un deuxième extrait de double album de Matmata, Miscellanée Bissextile, qui s'intitule Brest même. Et on retrouve Stan, le chanteur et guitariste et parolier, ainsi que Eric, le bassiste.
On va évoquer vos tournées. Vous avez participé au Printemps de Bourges. Enfin, on dit participer au Printemps de Bourges. C'était un petit peu en clandestin, puisque vous avez été faire le Printemps de Bourges dans les bars à Bourges.
Ouais, la première année, ouais. Ouais, parce qu'on avait fait les tremplins, là. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, le tremplin de
Bourges. Ouais. Le tremplin du Printemps de Bourges.
Et on a été éliminés en finale. Ils ont dit non, mais pour.
Ah, alors, on a gagné les départementales et on a été honteusement, c'était truqué, éliminé.
Non, mais c'était.
En régional.
Vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Voilà, vous êtes déjà lancé, ce qui n'était pas con d'ailleurs, en fait, c'était aussi bien. Puis c'est surtout que si on avait dû jouer à Bourges en officiel, on n'avait pas le droit de jouer avant le concert, en fait. Donc on est quand même allé à Bourges jouer dans les bars, on a joué tous les jours, on a foutu un merdier pas possible dans la ville, et puis bah, l'année suivante, on y jouait en officiel. Donc voilà. On a construit notre propre tremplin, en fait, voilà.
Et ceux qui ont gagné, bah, on en parle toujours.
Nous.
On en parle. On avait compris. Ouais.
Donc en fait, c'était ouais, non, c'était sympa, ouais. Mais c'est vrai qu'on a foutu un sacré...
Mais c'est pas tant le nombre de concerts, parce que c'était un peu épique, effectivement, parce que un des concerts les plus tarés, c'est que bah, la rue était complètement bloquée parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le bar où on jouait. Parce que bah, tu fais le premier concert et puis les gens se disent « Ouais, c'était cool, ils rejouent le lendemain, donc ils invitent des potes. » Et puis voilà, donc c'était compliqué. Mais c'est qu'on venait de faire nos premiers autocollants de groupe aussi. Et qui étaient des beaux autocollants bien jaunes avec le logo écrit en noir. Là. Très, très moche. Vraiment, les premiers stickers.
Les premiers visuels, quoi. Ouais.
Et puis, on n'avait pas forcément pensé qu'il y avait plusieurs catégories d'autocollants, de matière et puis de colle. Et en fait, nous, on s'est dit... Dès qu'on est arrivé, on s'est dit, tiens, dès qu'on va voir le mot Bourges, on va le remplacer par Matmata. Donc c'était bien de vue à Matmata, le printemps de Matmata, enfin voilà. Et donc on a fait ça, et je ne sais pas combien on en a collé, parce que selon la CGT, c'est beaucoup plus que selon les forces de police, mais il n'y a pas un seul endroit, mais même dans les espaces presse, partout sur le festival, dès qu'il y avait le mot Bourges, c'était remplacé par Matmata.
La CGT Bourges.
Donc voilà, on a eu du pot de ne pas prendre une plainte, parce qu'on en a vraiment collé sur les statues, sur toute la signalétique de la ville, sur tous les panneaux, les ronds-points, enfin partout quoi. À 3-4 mètres de haut des fois. Enfin, voilà.
C'était pas très écolo à l'époque.
Voilà, mais bon. Mais à l'époque, ouais, c'était, voilà. Ils n'étaient pas biodégradables quoi.
Ils doivent rester, je pense.
Ça sera à aller chercher, ouais, aller voir si on en retrouve. J'espère pas, parce qu'il serait capable de nous foutre
une plainte même quelques années plus tard. C'était vous l'avez reconnu dans une interview?
Non. Il y a eu une petite période de séparation en 2008. Le groupe est de retour en 2012. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps-là? Il y a eu des projets solo, des projets perso qui sont développés, ou c'était Cryo, vraiment...
Cryogénisé. Ouais, ça dépend. Chacun a pris un peu son... Ouais, moi j'ai eu des projets solo. J'ai fait un peu de musique à l'image aussi. Ouais, mais c'était une pause salutaire en fait, je pense. On était un peu usé en 2008, en fait. Il fallait arrêter. Et je trouve qu'on a bien fait parce qu'on revient avec l'envie, en fait. Et c'est vrai que quelquefois on voit des groupes ben, qui ont le même âge que nous et qui n'ont pas arrêté de tourner et qu'ils font leur truc, mais on les sent un peu usés, en fait. Donc nous, ça a été assez salutaire de faire cette
pause. Musique à l'image, c'était pour des documentaires?
Ouais, enfin, c'était les longs métrages quand même. On a un pote en fait qui a pas mal fait de trucs avec nous, qui est un peu spécialisé dans les expéditions extrêmes en Arctique et tout ça. Il m'avait demandé de faire. J'ai fait deux films avec lui en fait.
Ok, super. Et du coup, bah, là vous êtes revenu en pleine forme, on est d'accord?
Ouais, on sera mieux après la sieste, mais.
Parlez-nous de votre prochain album du coup.
Alors, surtout le prochain, le dernier. Alors le double album, Miscellanée bisectile.
Ouais. Il est long, hein. Bah, c'est un double, en fait. C'était pas prévu, mais bon, comme on a eu plus de temps que prévu, quand on nous donne le temps, on le prend. Donc voilà, c'est un peu la chronique des quatre dernières années, qui étaient des années un peu particulières, vu la conjoncture et tout ça. Et c'est, voilà, il y a eu des choses qui ont été écrites avant la crise, pendant, après. Voilà, donc c'est une espèce de chronique de ces quatre années singulières. Et... ouais, c'est un voyage, hein. C'est un voyage. On a essayé, miscellanée, parce qu'on a essayé d'assembler des choses qui ne s'assemblent pas forcément, mais bon, ça s'enchaîne en tout cas. Et ouais, c'est quand même assez protéiforme comme album, quoi. Faut prendre le temps, parce que c'est un pavé quand même. Et puis, ouais, on est allé un peu à l'encontre, on a voulu exploser les formats, quoi, en fait. Pas faire du 3 minutes 30, on dit on essaye des trucs, là, donc ça commence par un morceau de 20 minutes. Ça, c'était une volonté dès le départ, c'est une espèce d'exercice, et pas simple, hein, parce qu'il faut quand même retomber sur ses pieds.
Et voilà. Et puis il y a une chanson d'une minute 57 aussi, c'est notre record en termes de... voilà.
Alors, on a essayé plein de façons de faire des chansons et des disques, forcément, quand on a un peu d'expérience. Sur celui-là, on s'est dit qu'on allait reprendre un peu des trucs qui nous ont plu dans chaque façon de faire. Donc il y avait notamment l'envie de pouvoir chacun prendre le temps chez soi, de préparer, d'agencer un peu ses idées avant de les présenter aux autres. Parce que souvent, on le sait, hein, quand on est tous dans la même pièce et que d'un seul coup, tu as une idée, déjà, il faut arriver à la formuler, il faut arriver à convaincre. Comme il y a un peu des soucis d'ego, des soucis de place à prendre aussi dans les morceaux, des fois, bah, tu peux très vite avoir les autres qui te regardent et qui te disent non avant même d'avoir entendu la fin de ta question. Quoi. Donc là, c'était l'idée de pouvoir chacun emmagasiner de la matière, pouvoir aller au bout de ses idées, les présenter, ce qui fait que forcément, chacun a été plus lui-même. Bon, les pièces se sont moins...
Il y a certains qui viennent avec un bout de musique et ils proposent aux autres, et comment ça se construit ?
En fait, on est tous multi-instrumentistes, donc on est tous capables de faire des mélodies, des rythmiques, des thèmes, enfin ce genre de choses. Donc après, on a toujours fonctionné de la même manière, c'est celui qui chante, c'est celui qui a écrit. Donc il s'avère que c'est Stan qui compose, qui écrit la quasi-totalité des textes. Mais après, c'est vrai que chacun peut apporter des... Et puis une chanson, tu sais jamais de quoi ça peut venir. Quoi. On a une chanson qui s'appelle, je prends un exemple, mais il tourne le compteur, où c'est Scholl, notre batteur, qui est arrivé. C'était juste des claps et puis un petit riff de guitare. Quoi. Et puis en fait, ça parlait à tout le monde. Donc on s'est dit, l'ingrédient ou la colonne vertébrale est bonne, on va arriver à en faire quelque chose, on a envie d'en faire quelque chose. Donc on a essayé de cette façon-là. On a fait une chanson comme De l'Aventure est arrivée en répétition beaucoup plus rapidement parce qu'on était tous ensemble, on était dans la même énergie, dans la même envie. On ne s'est jamais donné de barrière quand on écrit, quand on compose, ni dans style, ni quoi que ce soit. Depuis le deuxième album, de toute façon, il y a énormément de gens qui nous ont dit « Ouais, pourquoi vous n'avez pas fait la même chose que le premier album ?» À chaque fois, on disait « La réponse, elle est dans ta question. » Enfin, déjà, on sait pas le faire, et puis c'est complètement con de faire ça. Enfin, c'est
ennuyeux.
C'est ça, ça doit être chiant. Quoi. Donc, on a toujours dit qu'on était puriste dans aucun style. On veut pas s'enfermer dans quoi que ce soit. Donc là, du premier morceau où on part dans une idée d'un morceau long avec des variations de tempo, des variations mélodiques, et que chacun peut emmener la matière qu'il veut, ou d'autres morceaux beaucoup plus spontané, on s'est vraiment autorisé. C'est étonnant parce que c'est un sixième album, mais c'est aussi un sixième album où il y a énormément de premières fois. Parce que c'est des premières fois où il y a un piano-voix, première fois où on donne un morceau à un arrangeur qui tripatouille alors que nous, on pense l'avoir fini, première fois où...
Alors justement, avec l'arrangeur, c'est intéressant de voir un peu comment ça s'est passé. Comment vous avez travaillé avec l'arrangeur dès le début, ou c'était une maquette ?
Non, on a le morceau, on l'a écrit, composé, on l'a enregistré, on l'a même mixé.
Voilà. Ah, d'accord.
Mais on savait que c'était pas terminé, en fait. Mais nous, on avait fait le tour, en fait. On dit là, on voit plus, là c'est. Et on s'est dit, bon, on va le faire remixer. Voilà. Donc, d'accord. En fait, c'est un remix qui est sur l'album, d'accord. En fait. Le morceau tel qu'il. Nous, on s'est dit, bon. On peut pas aller, nous on va pas aller plus loin, là, on a plus d'idées, là, on a plus de recul, on en avait même un peu marre du morceau, je dis ouais c'est bon là. Mais on le savait, donc on a dit bon allez, on avait mixé en fait, on a envoyé les pistes mixées de nous, voilà ce qu'on avait fait, et on a dit au mec, tu te démerdes. On lui avait dit ouais, on le sent un peu à la archive ce morceau là, c'est tout ce qu'on lui a dit en fait, et il s'est démerdé. Il a tout déconstruit, il a été enregistré des cordes. Et là, on a vraiment lâché le bébé, en fait. Et puis, on a reçu le résultat. On s'est dit, ouais, cool. C'est ce qui manquait, quoi. Ouais.
Lorsqu'il semble impossible d'infuser la moindre science dans nos cerveaux appauvris par quelques devoirs d'opulence, peut-être faudrait-il injecter en substance dans nos esprits serviles quelques hormones de décroissance. Mais c'est l'heure de l'abondance, au royaume de l'arrogance. Laissons la vie s'effondrer sur nous-mêmes. Allons droit dans le mur et qu'à cela ne tienne. Laissons la vie
s'effondrer sur elle-même, avec la conviction de s'en sortir indemne. Il n'y a ni argument, ni excuse qui tienne. Quand il semble pénible de nous parler d'abstinence, et qu'il est admissible de ne se laisser aucune chance, qui saura mettre terme à notre crise d'adolescence, d'abjecte pachyderme dans un magasin de faïence. Mais c'est l'heure de l'insouciance, au royaume de la négligence. Laissons la vie s'effondrer sur nous-mêmes, continuons à désinguer l'écosystème. Laissons la vie s'effondrer sur elle-même, et l'on se gare et l'on se fout des anathèmes. Il n'y a ni argument, ni excuse qui tienne.
Comment, pour généraliser un peu, comment on arrive à concilier en fait, on va dire les traditions, on va dire bretonnantes, et puis l'aspect rebelle du rock'n'roll quand même. C'est un peu contradictoire, pas forcément en Bretagne d'ailleurs. Non,
c'est assez guerrier déjà, de toute façon, la musique bretonne en elle-même. Dire un bagat, ça fait peur. Hein. Donc, il y a quelque chose d'assez. C'est pas absolument pas incompatible. Hein, c'est le rock, ça vient quand même, c'est une musique afro-celtique à la base. Hein. Ça vient du blues. Le blues, c'est le mélange des guitares irlandaises et des percussions africaines. Donc on reste toujours, ça reste dans la famille en fait. Donc les gammes sont assez similaires en fait. Hein, donc c'est tout à fait compatible.
Et puis je pense qu'on s'est jamais posé la question comme tu viens de nous la poser quoi. C'est-à-dire que on a tous des personnalités différentes, on a tous des parcours différents, même si on a effectivement un parcours commun qui est cette aventure Madmata. Mais quand l'un de nous propose quelque chose, c'est ce qui d'ailleurs je pense fait la patte, c'est que on s'adapte pas à l'autre en fait. C'est pas parce que d'un seul coup, je sais pas, Stan va partir sur une rythmique. Que le guitariste va avoir envie de suivre dans cette couleur-là, il va peut-être justement prendre le chemin inverse ou il va compléter. Donc on se pose pas la question, vraiment pas la question. C'est les trucs, ça nous vient, ça nous plaît, on le montre aux autres, les autres disent ah ouais ça le fait. Du coup ça me donne envie de faire ça. Ah bah tiens je pourrais faire ça aussi. Donc voilà, on n'a jamais essayé de. On veut garder vraiment quelque chose d'assez viscéral et d'assez évident pour nous. Donc on va pas commencer à se dire, bon allez quoi, toi tu vas faire une rythmique comme tel morceau de truc, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Je pense que dès qu'on commence à trop réfléchir à la musique...
Et puis on est devenus les spécialistes des mélanges improbables des fois, donc mais ça marche, fallait oser, c'est tout. C'est
ça. C'est par rapport à les deux succès, vous avez fait une tournée assez gigantesque en Europe quasiment. Et que vous avez quel souvenir de cette gigantesque tournée après la reformation, disons dans le courant de la reformation?
Oui, bon, c'était. Bah, on savait pas trop où on mettait les pieds parce que bon, on est quand même dans un métier, on peut se faire très facilement et rapidement oublier. Donc, quand on revient au bout de 9 ans, on savait pas trop ce qui allait se passer, mais bon, il y avait une attente. Donc, le public était là et même avec un renouvellement du public parce qu'il y a des jeunes générations de 15-20 ans qui ont débarqué sans on s'y attendait pas. C'était cool de voir des jeunes faire les cons au premier rang en fait. Bon, le public historique, ils étaient un peu plus loin derrière, mais tant qu'il y a des gens, voilà, c'est, de toute façon, c'est le nerf de la guerre.
Et puis on a toujours fait ça hein. dès la première tournée. Majoritairement dans les pays francophones, mais on a rapidement été joué à Hong Kong, joué en Australie, joué en Inde, en Pologne, en Roumanie. Parce que c'est,
Roumanie, on n'a pas fait. Hein.
Si, non.
Mais si, c'est Hongrie. Okay. Hongrie.
Il y a des contacts qui sont faits sur le chanteur apparemment.
C'est pas loin.
Mais on n'est pas passé en Roumanie.
Ah, on n'est pas passé en Roumanie. Non.
Il a le regard dans le lointain, il doute de lui-même, de ses souvenirs, de sa mémoire.
Je ne sais pas avec vous. Donc on a toujours aimé faire ça, et puis c'est marrant parce que quand on jouait en Inde par exemple, et bah les spectateurs ne connaissaient pas forcément les chansons, et pour autant celles qu'ils avaient envie de chanter sont celles qui avaient marché. C'est-à-dire qu'ils chantaient Emma avec nous, ils chantaient Lambé, ils envahissaient la scène sur Lambé, donc il y a un côté universel dans l'état d'esprit, dans les choses qui peuvent être ressenties. Donc on a toujours fait ça, on a toujours aimé se mettre un peu en danger, et puis ne jamais s'enorgueillir du fait d'avoir un petit succès ou d'avoir un succès parce qu'une chanson est passée en radio. On a même dit à un moment que ça devrait être nécessaire, ça devrait faire partie de la formation pour tous les artistes, que d'aller jouer devant des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas vu ta gueule 45 fois sur...
qui ne parlent pas ta langue.
Et qui ne parlent pas la langue. Donc voilà, on a commencé ce retour en disant on va annoncer un Olympia et une date à Brest. Et puis ça s'est rempli vite, on s'est dit on va en remettre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis finalement on a fait 101 dates ou 103 dates, je ne sais plus, voilà, sur la tournée, et effectivement avec un public qui se renouvelle, parce que la génération de nos enfants, je pensais vraiment qu'ils n'en auraient rien à faire, quoi. Puis en fait ils sont là, ils nous suivent, et donc on a du public à partir de 15 ans jusqu'à... Voilà. Bientôt on pourra vraiment dire Matmata de 7 à 77 ans.
Ça a toujours été un peu le cas en même temps.
Ouais, on a toujours eu plusieurs générations au concert. Et c'est très bien.
Eh ben, merci à vous d'avoir accepté l'interview. En vous souhaitant un bon concert pour ce soir. Merci. Amusez-vous bien et amusez-nous surtout.
Merci à vous.